Tu ne manges pas ?
Il y avait une forme d'ironie dans la question de Franck. Clotilde avait tout balancé. Poivrons, ribs de bœuf, façon stouffatou, fruits exotiques. Le festin promis d'épouse attentionnée s'était transformé en dés de jambon, tomates coupées et boîtes de maïs renversées à peine égouttées. Franck avait confié 20 € à Valou pour qu'elle aille acheter à l'accueil une barquette de frites, un magnum café, un cornetto strawberry. Et toi, Claude, tu prends quoi ?
Merci, rien pour moi.
Clotilde avait décidé de ne pas parler. Pas tout de suite, pas maintenant, pas ainsi. Elle n'avait qu'une envie. S'effondrer dans des bras solides, cogner de tous ses poings sur le torse d'un homme, pleurer un torrent de larmes dans le creux d'une épaule, maudire la vie en hurlant à l'oreille d'un visage qui lui murmurerait en retour des mots d'amour apaisants. S'abandonner tout entière à un homme qui la comprendrait, qui ensuite se tairait, qui l'aimerait. Franck n'était pas cet homme. Elle se leva, empila les assiettes, débarrassa, attrapa une éponge, une bassine, un torchon.
« Je vais sur la tombe de mes parents, après la vaisselle. Belvédère de Marconnet. Je n'en aurai pas pour longtemps. »
Les corps se croient aux fantômes. Leurs tombes en sont la preuve. Sinon, pourquoi construirait-il des caveaux monumentaux, des mausolées familiaux parfois plus imposants encore que la maison dans laquelle ils ont vécu? Pourquoi réserverait-il les plus beaux terrains pour ces somptueuses résidences secondaires où cette génération sert leurs squelettes? Pourquoi réserverait-il à leur cimetière les plus beaux panoramas, si ce n'est pour que les morts puissent eux aussi profiter de la brume sur la ligne de crête, des silhouettes des clochers à flanc de montagne, des couchers de soleil sur la citadelle de Calvi? Du moins, ceux qui en ont les moyens. Pas ceux relégués au fond des cimetières, dans les pierrailles non ombragées, dans les couloirs de crues et d'éboulis où chaque orage menace de recouvrir les tombes d'une coulée de boue quand elles n'emportent pas les cercueils. Le caveau de la famille Idrissi pouvait défier pour l'éternité les intempéries. Il dressait fièrement au-dessus du mur du cimetière de Marconnet son dôme bleu azur, ses colonnes corinthiennes, afin qu'aucun passant sur la corniche ne puisse oublier ce nom et cette glorieuse ascendance. Parmi les plus anciens des Idrissi figurait un amiral, 1760-1823, un député, 1812-1887, un maire, 1876-1917, l'arrière-grand-père de Clotilde, Pancras, 1898-1979, ainsi que trois anonymes, Paul Idrissi, 1945-1989, Palma Idrissi, 1947-1989, Nicolas Idrissi, 1971-1989. Nathalie attendait à l'intérieur du cimetière, invisible de la route, dans l'ombre du mur de plâtre et de chaux. Clotilde s'effondra dans ses bras, l'embrassa, pleura, 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 s'écroula enfin sous l'arbre le plus proche, un if, au tronc tordu par le vent du large, sans même se soucier des aiguilles plates piquant la chair nue de ses cuisses. Le cimetière était désert, à l'exception d'une vieille femme penchée sur les tombes les plus éloignées, qui traînait avec peine l'arrosoir qu'elle venait de remplir à la fontaine. Alors enfin, Clotilde parla. Nathalie s'était assise à côté d'elle et lui tenait la main. Leurs corps ne se touchaient pas, seuls leurs doigts restèrent connectés. Clotilde déballa tout. Les révélations de Cesare ou Garcia sur la voiture de ses parents. Sa vie qui n'était qu'une grande chambre noire. Son amour pour Franck qui s'effilochait. Sa fille qui lui échappait, qui jamais ne lui ressemblerait, à un point qu'elle en venait à se demander si vraiment elle l'aimait. Et le passé aussi. Ce passé comme un boulet. Sa mère qu'elle jalousait, son père qu'elle vénérait. Ce type qui parlait au dauphin qu'elle n'avait jamais oublié. Juste après avoir dit ça, elle l'embrassa. Et son frère Nicolas, son grand frère, qui lui avait ouvert le chemin de la vie en balayant la poussière devant elle, en la portant sur son dos quand la pente était trop raide, en lui apprenant les raccourcis. Son frère qui l'avait abandonné là, à la Révélata, qui lui avait demandé de garder le secret, qui n'avait pas osé parler,
qui avait préféré monter en silence dans une voiture transformée en piège mortel, sans en avoir conscience. De l'inconscience, c'était cela, de l'inconscience. Clotilde se vida de toutes ses peurs, de toutes ses rancœurs, comme si elle pesait une tonne et qu'en les expulsant, elle redevenait légère, une baudruche. D'ailleurs, la main de Nathalie la tenait comme on tient un ballon gonflé à l'hélium, un peu trop fort, comme on agrippe un être trop fragile. La tombe des Idrissi était fleurie, un bouquet d'églantines, des lys, des orchidées, pour la plupart fraîchement coupées. La plus colorée de tout le cimetière. Cassano et Elisabetta n'étaient pas du genre à laisser les fantômes des Idrissi, de l'amiral lointain à leur fils unique, renifler des fleurs fanées dans des vases d'eau croupie. Devant eux, plein soleil, la vieille femme à l'arrosoir s'approchait. Clotilde continuait de s'interroger, tout en tordant les doigts de Nathalie. Son cœur de baudruche semblait vouloir reprendre sa liberté. Pourquoi Nicolas n'avait-il rien dit ? Nicolas le raisonnable, Nicolas le sage, Nicolas l'enclume qui supportait les coups des uns et des autres, Nicolas le modèle, Nicolas le droit comme un « i », le rond comme un « o », le beau, le gentil, Nicolas qui avait tout pour lui. Pourquoi Nicolas avait-il volé les clés de la Fuego, conduit la voiture sans permis, eu ce projet fou de virée nocturne en boîte de nuit ? La réponse était simple, cruelle, pitoyable, méprisable, sale. Pour une poufiasse, pour épater une fille qu'il n'aimait même pas, pour tenir dans ses mains une paire de seins, pour fourrer son pénis dans un vagin qui se refusait aux autres, mais peut-être pas au sien. Parce que Nicolas, le cérébral, n'était pourtant qu'un petit animal, comme tous les autres hommes. Et que tous ses principes, toute son éducation, toutes ses lectures et sa culture ne faisaient pas le poids face aux courbes d'une peau bronzée, à deux yeux de panthère plantés dans les siens, des lèvres entrouvertes sur des promesses muettes. Oui, c'était aussi ridicule que ça. Nicolas avait tué son père et sa mère, s'était tué, l'avait condamné à perpétuité, pour posséder une fille pour la première fois. Une fille qui ne le méritait pas. Même pas une fille d'ailleurs, juste son corps. Juste un objet, au mieux une poupée. Elle revoyait le regard effrayé de Maria Chiara à la porte de son vestiaire, le soir où elle avait prononcé le nom de Nicolas, évoqué l'accident. Son silence, son déni, sa fuite. Elle comprenait. Elle comprenait maintenant à quel point pour Maria Chiara, ce secret avait dû être lourd à porter. Elle qui n'avait rien demandé. Elle qui avait tout provoqué, qui n'avait rien fait d'autre que jeter son mégot. Qui pouvait-elle si le soleil brillait, si le vent soufflait sur les herbes sèches et le bois mort ? Pire woman et innocente à la fois. On ne va pas condamner un objet, pas même une poupée. Promets-moi, Nathalie, promets-moi que tous les hommes ne sont pas ainsi que... Leurs lèvres s'arrêtèrent à quelques centimètres l'une de l'autre.
Excusez-moi.
L'arrosoir de la vieille laissait derrière elle des gouttes qui disparaissaient comme par magie quelques secondes plus tard, dans le chemin de terre ocre. Clotilde reconnut alors son visage, encadré par un voile noir de la même couleur que sa robe.
Speranza, la sorcière d'Arcano, la grand-mère d'Orsou, la femme à tout faire de Elisabetta et Cassano.
Sans leur accorder le moindre regard, Speranza vida l'eau d'un des cinq vases posés sur le caveau. En sortit les fleurs une à une, avec une infinie délicatesse. Remplit le vase d'eau fraîche, tria les fleurs, arracha quelques feuilles, extirpa un sécateur du fond de sa poche pour couper les quelques tiges fanées, puis se déplaça lentement vers le second bouquet. Soudain, comme si ses gestes précis et mécaniques avaient dissimulé une intense hésitation, elle se retourna. Ses mots claquèrent dans le silence.
« Tu ne devrais pas être là !»
Clotilde frissonna. Speranza ne regardait qu'elle, comme si Nathalie n'existait pas. Elle lâcha l'arrosoir et, lentement, son doigt suivit les lettres gravées sur le mausolée. « Palma Idrissi, 1947-1989. »
« Elle non plus !»
Les premiers mots semblaient avoir été les plus difficiles à cracher pour Speranza, tels des bulles d'alcool derrière un bouchon qu'on peine à faire sauter. Les suivants explosèrent.
« Elle ne devrait pas être là. Son nom n'a rien à faire gravé ici avec les Idrissi. Ce n'est pas moi, la Streia, la sorcière de la montagne, c'est ta mère. Tu ne sais rien, tu n'étais pas née. »
Elle esquissa un rapide signe de croix.
« Mais ta mère l'a ensorcelée. »
Les yeux de Speranza fixaient le nom de Paul Idrissi gravé sur le caveau.
« Crois-moi, des femmes sont capables de ça. Ta mère a ensorcelé votre père. » Et dès qu'elle l'a tenu sous son pouvoir, elle nous l'a volé. Elle l'a emporté dans ses filets, loin, loin de tous ceux qui l'aimaient.
Loin, pensa Clotilde. Cela signifiait le Vexin, bossu ou pas, au nord de Paris, pour aller y vendre des hectares de gazon. Elle n'avait jamais mesuré à quel point le choix de vie de son père avait dû être difficile à accepter pour sa famille. Nathalie serrait sa main, rassurant et prudent. Sans intervenir. Speranza vida avec rage l'eau d'un second vase. Des pétales fanés se posèrent en confetti pastel sur sa robe noire.
Si ton père ne l'avait pas croisé,
continua Speranza, tout en brandissant son sécateur,
il se serait marié ici, aurait fait des enfants ici, aurait fondé une famille ici. Si ta mère n'avait pas débarqué de l'enfer pour l'emporter, pour y retourner avec lui.
Son bras décapita trois roses, deux lys orangés et une orchidée sauvage. Sa voix pour la première fois se radoucit.
Tu n'y es pour rien, Clotilde. Tu es une étrangère. Tu ne connais rien à la Corse. Tu ne ressembles pas à ta mère. Ta fille, si. Ta grande fille est comme elle. Elle aussi deviendra une sorcière. Mais toi, tu as les yeux de ton père, sa façon de regarder les choses, de croire à ce que les autres ne croient pas. Toi, je ne t'en veux pas.
Pour la première fois, les yeux de Speranza se posèrent sur Nathalie. Sa main ridée et nerveuse se crispait sur le sécateur qui s'ouvrait et se fermait dans le vide, comme pour couper l'oxygène qu'il respirait. Puis, d'un geste sec, elle pointa la lame de l'outil contre le marbre du caveau, la fit glisser, crisser, cherchant à rayer le nom de Palma Idrissi sur la plaque mortuaire. L'acier du sécateur laissa une cicatrice blanche dans la pierre grise. Quelques lettres s'effritèrent. Le A, le M. Les yeux de la vieille femme s'élevèrent jusqu'au nom gravé au-dessus. Paul Idrissi. Une nouvelle fois, Speranza se signa.
Paul aurait dû vivre ici, si ta mère ne l'avait pas tué. Vivre ici, tu m'entends? Vivre ici, pas revenir pour y mourir.
Nathalie accompagna Clotilde jusqu'à la voiture. La vieille Speranza invectivait encore la mémoire de Palma lorsqu'ils sortirent du cimetière, comme chassés par un esprit dérangé. Ils s'embrassèrent longuement devant la portière ouverte de la passade. Le parapet de béton qui bordait la route ressemblait à un quai de gare. On aurait presque pu croire qu'allait retentir un coup de sifflet indiquant le départ du train. Clotilde eut la force de plaisanter.
Ma mère n'avait pas l'air très appréciée ici, pas plus de son vivant que pendant sa vie de fantôme. Tu étais le seul Corse à l'aimer, on dirait.
Pas le seul, ton père aussi l'aimait.
Touché.
Je dois y aller.
Un dernier baiser sur le quai de la Méditerranée. Je comprends, je t'appelle.
Elle osa une dernière question. Après tout, c'est elle qui conduisait la loco.
La haine des Corses, Nathalie. La haine des Corses envers ma mère, alors qu'elle et toi étiez, disons, très proches. Ton bateau abandonné. Ton mariage avec la fille d'un flic. Ça a à voir avec cette histoire? Avec ce poids, cette pression? Avec l'essor que toutes les vieilles Corses menaçaient de te jeter?
Il se contenta de sourire. File, ma princesse. File rejoindre le donjon où tu es enfermée. Sauve-toi pendant que ton chevalier retient les sorcières. Clotilde conduisait les yeux embués de larmes. Les rochers se déformaient, glissaient, comme dilués dans la mer. À chaque virage de la route, la pointe de la Revelata apparaissait noyée dans un brouillard qui n'existait que dans son regard. Le paysage humide se délavait, Les poteaux électriques mouillés se tordaient. Mais Clotilde conduisait assez lentement, à moins de 30 km/h, pour reconnaître le visage de Maria Tiara collé sur les affiches d'un poteau sur deux. Concert Etise, tropicaliste, le 22 août, plage de l'Ochelucha. Après-demain. Le même programme qu'il y a 4 jours. Cervone n'avait aucune raison de changer une recette qui rapportait, surtout pour des vacanciers qui, eux, restaient rarement longtemps au même endroit. Clotilde ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. Elle devait retourner voir la chanteuse italienne. Elle devait trouver un moyen de lui parler, de se débarrasser du garde du corps devant sa porte, de lui faire avouer ce qui s'était passé avec son frère, Nicolas, ce 23 août 1989. La sortie de route, la direction endommagée, leur silence tacite. Seule Maria Tiara pouvait confirmer la version de Cervone. Mais comment la contraindre? Avouer, pour l'italienne, c'était reconnaître sa complicité, sa responsabilité directe dans la mort de 3 personnes des années après. Elle nierait, forcément. Même si par miracle Clotilde parvenait à l'approcher, elle nierait. Jamais elle ne connaîtrait, avec certitude, la vérité. Les larmes coulèrent de plus belle. Elle roulait maintenant à moins de 20 km/h. Un camping-car géant immatriculé NL s'impatientait derrière elle, la collait, semblait déterminée à la pousser vers le précipice si elle ralentissait encore. Dans un réflexe stupide, comme pour nettoyer le paysage délavé, elle actionna les essuie-glaces. Clotilde aperçut alors l'enveloppe coincée entre le pare-brise et le balai. Un prospectus? La feuille de papier qui ne tenait déjà plus que par un coin d'essuie-glace après un ultime aller-retour s'envola. Clotilde pila. Le camping-car hollandais fit hurler son klaxon plus fort encore que la corne de brume d'un ferry à l'entrée du port de Bastia. Déboîta. Une rouquine sur le fauteuil passager l'insulta en flamand pendant que tous les gamins à l'arrière collaient leur nez à la portière et l'observaient comme une bête curieuse. Clotilde s'en fichait. Elle gara en catastrophe la passade sur les graviers, 2 roues sur le bitume. Elle laissa la portière ouverte et courut derrière l'enveloppe qui volait de rocher en rocher. Elle la ramassa, contre un mûrier sauvage, s'écorchant les avant-bras, maudissant sa folie. Franck avait raison. Elle perdait tout sens de la mesure. Ses émotions devenaient incontrôlables. Elle avait failli se faire tuer pour une publicité, l'ouverture exceptionnelle le dimanche prochain du supermarché du coin, ou une brocante, un concert, peut-être même celui de Maria Tiara. Un bout de papier. Sa main trembla. L'enveloppe était blanche, à l'exception de 2 mots. Pour Clot. Une écriture féminine, une écriture qu'elle aurait reconnue entre toutes. Celle de sa mère.